Allez, bonjour à tous. Est-ce qu'on fait grise mine aujourd'hui avec les nouvelles annonces de notre cher président? Pas simple à gérer encore cette période qui va s'annoncer. Mais évidemment, on est dimanche matin, il est 11h et Sport Epic est là pour vous donner le sourire.
Oui,
tout va bien pour nous. J'ai mes consultants vedettes, ne vous inquiétez surtout pas, ils sont là. J'ai mon Lionel qui est là, merci mon ami.
Grand bonjour à tous.
J'ai Gilbo en galère énorme sur Virtual Regatta, mais il est là quand même pour être avec nous.
Tout va bien, je ne suis pas inquiet du tout.
Tout va bien. Et mon Fred, bien sûr, Fredo La Science. Salut Fred.
Bonjour à tous.
J'ai mangé avec lui hier soir, je peux vous dire qu'on a déjà fait quasiment l'émission. Et bien sûr, l'invité du jour, messieurs, dames, auditeurs, auditrices, ce sera Alain Bellec. Qui est Alain Bellec ? Alain Bellec est tout simplement le président d'un très grand club dans le coin, s'agit de l'US Forcé. L'US Forcé Football, je précise. Merci Alain d'être là.
Merci à toi de l'invite. Enfin, à vous.
On va parler évidemment, Alan, de ce rôle très spécial. Tu vas parler au nom de tous les présidents, de tous les sports, de présidents de clubs amateurs. Évidemment, on a la chance que ce soit Forcé une fois de plus, hein, qui soit mis à l'honneur. Mais je pense que bien sûr, tu représentes un peu cette tâche chez tout le monde. Alors moi, avant peut-être que tu aies quelque chose à dire, moi, ma vraie première question, c'est comment on a envie de faire ça, tu vois ? Parce que moi, je le vois bien, ton rôle, c'est que des emmerdes, c'est que des réunions, c'est que des engueulades, c'est que des choix à faire qui ne sont pas faciles parce qu'il faut gérer de l'humain. Donc, comment on a envie de faire ce truc dans un club amateur ?
Je n'ai pas eu spécialement envie, on me l'a proposé. Après, tu y réfléchis, tu te poses des questions. Après, bonne, pas bonne. Voilà, hein, chacun, il y en a qui ne vont pas se retrouver à ce poste-là. J'ai souvent été par mes boulots responsable, donc tu sois responsable d'un club de foot ou que tu sois responsable ailleurs dans un commerce, c'est pareil. Après, c'est le sport, forcément. Tu me connais, je suis très familial. J'aime bien quand tout se passe bien et qu'on puisse tous s'éclater. Donc, si on peut procurer du bonheur et qu'on a du temps à passer. Je pense pas que ça se décide, en tout cas. C'est pas j'ai envie d'être président et je le suis. J'y crois pas. Ou alors après, il faut être très riche.
Je vais te dire, moi, à ta place, moi, je réfléchirais deux fois. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je vous vois. Je te vois, je vois Steph avant toi. Quand tout va bien, c'est jamais grâce au président. Et quand tout va mal, très bizarrement, c'est toujours sa faute, qui a mal géré les sponsors, qui a mal géré l'entraîneur, qui a mal géré celui-ci, celui-là. Ça vous retombe sur la gueule, alors que vous y pouvez quand même pas grand-chose, quoi. Et moi, je trouve ton rôle hyper ingrat, tout simplement. Et je félicite tous les présidents de tous les petits clubs à droite, à gauche, dans tous les sports.
De toute façon, c'est forcément une tâche ingrate. Mais je t'ai dit, que tu sois responsable d'un club de foot, d'un club de ping-pong, que tu sois responsable commercial d'un autre domaine. Tu vas chez, enfin, pour ne pas citer de marque, mais tu vas chez Gémeaux, Kiabi, je ne sais quoi. Tu es responsable, admettons. Si ça se passe mal, de toute façon, c'est toi qui sautes. Hein. Et puis quand les résultats vont bien, on ne va pas te le dire. On va dire que ça va être au-dessus ou c'est meilleur. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est un rôle ingrat, mais après que tu le fasses pour ton plaisir personnel, pour que les potes s'amusent, et tant mieux. Après, quand tu le fais quand t'es payé, c'est autre chose. Mais moi, je me dis que voilà, tant que ça marche, ça me va bien. Puis je pense pas que je vais durer des années. De toute façon, il faut que la retourne. Mais tant que ça va, on va rester fortifiant.
Ouais, surtout quand on voit un mec jeune comme toi. Alan, tu dois avoir vers 35 ans, toi, à peu près. Là,
35. Oh, ouais, t'es trop généreux. Je suis vétéran quand même, papy.
T'es vétéran quand même, mais bon, t'es pas encore à la quarantaine. C'est quand même très rare de voir dans tous les clubs amateurs des jeunes qui s'investissent. Et pour le coup, à Forcé, que ce soit toi en foot ou que ce soit sur le multisport de Forcé, c'est deux jeunes. Et on a cette chance parce que vous allez pouvoir durer. Lionel, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je suis moi-même président d'un tout petit club que tu connais bien, Benoît. À peu près tous les chroniqueurs y sont adhérents, mais j'ai pas les contraintes d'un grand club comme toi, Alan, que je respecte énormément. Mmh. Je partage complètement les objectifs de bon vivant que tu dois être, mais effectivement, il y a des soucis qui peuvent arriver rapidement dans des grosses structures comme la tienne. J'entends l'administratif, le réglementaire. Est-ce que tu es aidé pour ça?
Oui, heureusement. J'en suis beaucoup quand même. J'en fais beaucoup, mais je me fais beaucoup épauler par Antoine Marie, mon secrétaire. Il m'aide énormément. On a l'avantage d'être en omnisport, donc la trésorerie est gérée par l'omnisport, même s'il y a une grosse section foot, mais on a moins de contraintes à ce niveau-là. On s'en sort aussi bien parce que l'omnisport ne nous oblige pas à faire des AG officiels pour la section foot, puisque c'est l'AG de l'omnisport qui nous gère ça en administratif. Donc on a moins de contraintes. On a un club qui est assez conséquent, mais on a moins de contraintes par le biais de l'omnisport. Après, de toute façon, il faut se faire aider. Au départ, quand j'ai repris la présidence, on avait 90 licenciés, je crois. Donc voilà, ça allait bien. On avait deux équipes seniors, une école de foot, le groupe en Val-de-Joanne avec Parnay et Entrammes. Là, aujourd'hui, on a doublé l'effectif. On a 190 licenciés. On a beaucoup de seniors. Voilà, on a beaucoup gonflé. Ouais. Donc là, il faut se faire épauler, forcément.
Fred ?
Je voulais savoir si éventuellement tu pouvais nous présenter effectivement la structure, si tu avais des salariés à gérer, le nombre d'éducateurs, tout ce qui va avec, quoi.
Globalement, la structure, on a un bureau organisé avec donc moi président, André Gilles, vice-président du club, qui est là depuis des années, on ne les compte plus.
André Gilles qui fait partie de ces personnes dans les clubs où ils sont là depuis, comme tu dis, on les compte plus et le club tourne très clairement autour de mecs comme ça, quoi. Ouais, c'est la folie, ça s'occupe de l'école de foot le samedi matin, ça t'occupe de l'arbitrage de la B le dimanche après-midi, ça te fait arbitre de touche à droite à gauche, c'est les folies ces types-là aussi.
Ouais, c'est un gros pilier de toute façon, mais je me suis aussi appuyé là-dessus, hein. C'est la présidence aussi, elle était prise avec lui en partie, c'était le prévu. On a Antoine Marie, secrétaire, et après on a tout le bureau, mais on a fait un petit bureau de nos dirigeants seniors, en fait. Dirigeants seniors qui nous gèrent, ça c'est la petite structure qu'on a, on va dire, administrative. Je suis pas un grand fan de réunions comme à mon travail, de toute façon, j'aime pas ça. Donc on se réunit trois fois par an. Voilà, ça me suffit. Le reste, on a des mails, on a le téléphone, ça marche très bien. Ça sert à rien de s'amuser à créer des réunions aussi, ça pareil, ça noie aussi bien le boulot qu'au foot, ça noie le club à un moment donné. Donc voilà, et puis après, bah, y a plein de monde autour. On va avoir voilà, un de mes joueurs. on a l'éducateur Julien Favier, qui est l'éducateur principal, qui me gère tout le groupe senior. Et après, on a deux éducateurs au groupement Val-de-Joanne qui sont, j'ai paumé le nom.
Ouais, t'as toute la structure.
Qu'on les diplôme, voilà. Et après, on a encore cinq éducateurs aussi qui sont en formation tout le temps, quoi. Donc, on a, pour résumer, 10 éducateurs. Ouais, on a 10 éducateurs, plus après, des bénévoles. Aussi, il y en a qui sont éducateurs sans avoir de diplôme, mais on a 10, 12 éducateurs au total au club. Aucun salarié.
Gilbo ?
Ouais, bonsoir, Alan. Bonsoir. Dans ta fonction, là, qu'est-ce que tu détestes le plus ? Qu'est-ce que tu préfères le plus ?
Il n'y a rien que je déteste.
Ah bon ?
Honnêtement, il n'y a rien que je déteste.
Et qu'est-ce que tu préfères, du coup ?
Ce que je préfère, c'est... pour te donner une date approximative, entre le 1er et le 15 juin, le barbecue de la fin d'année.
Voilà. Ouais, ça te va bien, ça.
C'est
ça
la seule bien. Chose. Ouais.
Mais Alan
ton... ouais, pardon. Mmh. Et c'était quoi ton objectif quand tu as repris le club? Enfin, tu l'as pas repris. L'objectif, c'est de développer le nombre de licenciés que tu as eu. Enfin, je sais pas.
L'objectif, moi, c'était de. Je suis pas de la région, moi. Je suis arrivé en Mayenne il y a 6 ans. Je suis du Loir-et-Cher. J'ai été dans deux clubs qui étaient vraiment périurbains comme Forcé. Et mon objectif dans ma tête, c'était de reproduire entre guillemets d'où je venais. Je trouvais que j'avais un club, moi, c'était la Chaussée Saint-Victor qui tourne toujours d'ailleurs tout autant.
Ah oui.
La Chaussée Saint-Victor, voilà. président Patrick Boulet, c'est une crème. Et je me suis calqué dans ma tête là-dessus en me disant, voilà, je ne veux pas en faire un gros club. Or, ce que je veux, c'est que ce soit quelque chose de structuré vraiment pour les jeunes de 5 ans, 6 ans, même comme mon fils que vous venez de voir. Voilà, que ce soit encadré et que ce soit géré jusqu'au senior où on s'amuse. Et on peut avoir de la compète. L'équipe première, c'est de la compète. C'est là pour ça. Après, les réserves,
ah, si elles veulent faire... aussi, hein.
Voilà, les réserves, après, c'est au choix de chacun. La B, moi, je veux que ce soit la compète de cette année, ils le savent. Mais après, derrière, voilà, ça peut très bien s'amuser. J'avais ma première priorité quand j'ai pris le club, c'était que je voulais créer une vétéran. La vétéran était annulée depuis, enfin, avait été arrêtée depuis 3-4 ans. Pour moi, un club sans vétéran, c'est pas un club. Donc, voilà, on s'efforce et puis ça tient, et voilà. Mais... ça grandit, c'est que ce soit surtout encadré et que ce soit géré. C'est ça qui, pour moi, est le plus important.
Chez les vétérans, t'en as plusieurs, là. Je peux te dire, ça lève la main, là. Ils ont envie d'intervenir, là. Et à Lionel.
Oui, encore, tu es très enthousiaste, c'est génial. Malgré tout, est-ce qu'il t'est arrivé un soir d'avoir du mal à dormir? Et si oui, c'était sur un point réglementaire ou un point financier?
Réglementaire. Financier, non. On s'en sort bien malgré Covid, malgré sponsors qu'on galère, malgré buvettes qu'on n'a plus en ce moment. Malgré tout ça, on s'en sort. On a des finances saines et je m'attelle à ça parce que c'est moi qui vais chercher tous les sponsors avec notre vice-président Dédé. On est deux à s'être attelé à ça.
Au prix où je paye ma licence, tu m'étonnes que ça va bien.
Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Mais à côté de ça, je sais plus ce que je disais. Ça y est, tu m'as paumé avec ta connerie, toi.
Tu parlais de l'aspect réglementaire qui était
réglementaire. Ouais, il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais, j'ai très mal dormi. Ouais. Je me suis fait squeezer une montée de mon équipe réserve parce que j'ai un arbitre qui n'a pas été assez désigné par le district et ça me retombe dessus. Donc, ouais, j'ai pas aimé. Désigné sept fois, il fallait qu'il fasse 8 matchs. Sauf qu'on m'a dit, bah, il en a fait que 7. Bah, oui, mais il était désigné que 7 fois. Non, il en faut 8, monsieur. Ça ne marchera pas. Voilà.
Ouais,
ça, c'est.
Dieu. Et tu disais, Alan, que tu n'as aucun mauvais moment. Moi, j'ai énormément de respect pour tous les gens qui prennent des responsabilités. On est tous un petit peu là autour de l'écran que tu vois. On en a tous pris à un moment ou à un autre dans différents clubs. Tu es arrivé avec ta vision du football. Tu es arrivé dans un club qui avait une autre vision du foot. Et il y a eu un moment, tu as dû changer cette vision-là. Ça t'a pas fait énormément plaisir, je le sais très bien, mais toi, tu voyais la chose différemment. Ça a été mal pris pour beaucoup. Et moi, tu sais très bien que j'étais un aficionados de notre entraîneur. Mais par contre, j'ai toujours respecté ton choix parce que tu l'as toujours expliqué. Tu as toujours dit que ce qui était important pour toi, c'est que notre première reste en ligue. Et ça, s'il fallait passer par un autre jeu, c'était important. Et là où je te respecte, c'est que c'est toi le président, tu as pris les responsabilités, donc c'est à toi de faire aussi ces choix-là, même si j'imagine que ça ne devait pas être simple.
Ouais, je suis d'accord, il faut prendre des responsabilités. Après, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de truc, il y a de mauvais moments, mais après ça se vit et puis il faut l'accepter. Sinon, je donne les clés du club et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'y met. Si on commence à paniquer à la moindre décision qu'on prend, on n'avance pas. On n'avance pas et on recule. Donc, de toute façon, il faut accepter. Après, ce qui m'a fait, entre guillemets, plaisir, c'est que ça a fait très mal, ce changement d'entraîneur. Pour tout le monde, hein. Moi, le premier, hein. C'est pas un plaisir de faire. Hein. Mais quand tu vois que deux ans après, en fait, les gens reviennent au club et qu'ils se disent, si c'est bien, tu vois, ce qui prouve que mon choix, en fait, il est malgré tout respecté. Sur le moment, il ne l'est pas. Et on se rend compte qu'avec du recul, c'était pas idiot. Alors après, on verra les années à venir, hein, mais ça passe, donc c'est bien.
Ouais, c'est des moments, ça c'est sûr, c'est des moments pas simples. Tu parlais sponsor là tout à l'heure là. Est-ce que en amateur, moi je crois que je t'ai vu arriver avec Toyota à l'époque parce que toi t'es dans le métier. Ouais. Est-ce qu'à ce niveau-là c'est important? J'ai jamais compris moi qu'un sponsor venait se mettre sur un maillot. Qu'est-ce qu'il en retire de voir Toyota écrit sur un petit terrain où tu vas avoir au mieux 15 personnes qui vont regarder le match quoi.
Un crédit d'impôt.
Ouais, c'est ça. T'as un crédit d'impôt. Après, non, moi, ce que je vends aujourd'hui et ce qu'on fait et ce qu'on met en amont, c'est que j'essaie d'avoir un partenaire par secteur, par exemple. Et si on a un besoin, pour Toyota d'une voiture, c'est de s'efforcer d'aller vers cette personne pour qu'il puisse y retrouver son compte un minimum. Ouais. Vendre une voiture, bah voilà, tu vends une voiture par le biais du sponsor. Le sponsor, il est content, il vient de lui esforcer, bah voilà, c'est très bien. Ça fait un minimum rentré, ça fait un partenariat. De toute façon, on le voit, ils l'ont tous dit à la télé depuis quelques mois, il faut faire marcher le petit commerce, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, si tu vas dans un sens avec un garage, un boulanger avec qui tu travailles et que tu redonnes l'appareil, et bah, ça marche très bien. Et on a extrêmement besoin de sponsors et tout. C'est la moitié du budget du club. C'est la moitié du budget.
Ah ouais, mais ça j'imagine bien. Mais moi, là, on est en plein Vendée. Notre spécialiste Vendée Globe, Gilbo. Quand tu vois ces massifs, ces ponduels, ces machins là qui te payent des plateaux, des milles et des cents depuis des plombes et des plombes, est-ce que moi, ils se retombent sur leurs pattes tous ces gens-là là? Et donc, non. Toi, à ton niveau, Alan, voilà, est-ce que Toyota retombe sur ses pattes si tu arrives à vendre une bagnole parce que quelqu'un a vu une fois Toyota sur notre championnat? Je sais pas. Est-ce que c'est rentable, quoi?
À mon sens, oui. Alors, je parle pour les bagnoles parce que je suis dedans. Mais ouais. Ouais, tu vends une ou deux voitures dans l'année ou trois voitures grâce à ça. Ouais. Tu retombes sur tes pattes, sur ce que tu mets, l'argent que tu mets. Ouais, tu retombes dessus. Je parle dans les voitures. Après, le boulanger, c'est autre chose. Mais tu fais de la pub au boulanger. Le pain, il est bon. Enfin, voilà, peu importe. Tu fais quelque chose. Et ben, tu vas revendre et tu vas faire de la pub. Tu m'en parles. Donc, je pense que c'est gagnant.
C'est gagnant, tant mieux, c'est gagnant. Messieurs, un petit jeu, je vous donne une institution, vous me donnez le président célèbre qui y correspond. Je suis, vous levez la main pour répondre évidemment, je suis l'ONU. L'ONU, vous savez pas ce que c'est l'ONU, non?
Le président actuel?
Mais c'est quoi? C'est un organisme de sport, l'ONU?
C'est ton problème, toi. T'es trop encadré sur le sport. Il faut savoir s'ouvrir, les gars, dans le sport éthique. Non, l'ONU, vous savez pas ce que c'est. Personne peut l'imprimer dans l'ONU. Si,
on sait ce que c'est, hein. Y a pas de souci, hein.
Après, vous n'avez pas un président célèbre, quoi.
Ah, c'est célèbre.
Jonah l'ONU?
Putain, vous êtes débile. Bon, on va revenir dans le foot, alors. À Marseille, voilà. Et là, on va trouver le président, les gros malins, là.
Bernard Tapie.
Voilà, merci, il a compris, lui. Le Rennes, le président célèbre.
Pinot.
Voilà. Pinot. Alors, Pinot, est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est un actionnaire? Moi, je ne comprends pas ce que c'est la diff entre les deux.
Bah, le père est actionnaire, le fils est président.
Ah ouais, bah comme ça, c'est
plus. Ah non, c'est Velvec, c'est Olvec, le président.
Oui, enfin, président délégué,
ouais. Ouais, président délégué, ouais, exactement. Merci Frédéric.
Ouais. Bah, la nuance est top, hein. Président délégué, je pense que ça parle à tout le monde. Le Zahir.
Zahir. Mobutu.
Voilà, c'est bien, on peut sortir du foot un peu, c'est pas mal. L'Asvel.
Parker.
Tony Parker.
Ouais, Tony Parker. Lionel, ouais, il est
bien, top. Je le connais.
Et un petit dernier, la RDA.
Honecker.
Ouais, Eric Honecker, bravo, Fredo, ouais. Évidemment. Voilà, tous ces présidents célèbres. Il y en a qui font très rapidement, Alan, je ne sais pas si ça va t'arriver, si ça risque de t'arriver, si tu es une de ces personnes-là, mais qui font vraiment, ça fait gonfler leur ego et derrière, on est un peu dans le culte de personnalité. Alors là, évidemment, hein, on parle de forcé avec 1000 habitants, mais est-ce que, avec cette casquette, tu te dis pas, putain, je suis un bonhomme, quoi. Je suis vraiment le roi du bled, quoi.
Non.
Non.
Non, non, je suis pas le roi du bled. Non, après, c'est.
C'est valorisant, quand même.
Ouais, c'est valorisant. Après, voilà, je suis pas le roi du bled ou le roi du pétrole, mais c'est valorisant. Quand t'as les gamins, je te dis qu'on 6, 8, 10 ans, qui sont super contents cette année, c'est très bête, hein. J'ai fourni, bah, tu le sais, de toute façon, une gourde à tous les gamins étiquetés avec le prénom. Les gamins qui viennent que tu vois l'entraînement, que j'ai encore été hier. Merci pour la gourde, c'est sympa, les parents qui viennent te remercier. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est valorisant, c'est agréable quand les gens viennent et que…
J'imagine.
Invité à la radio.
C'est apprécié.
Invité
à la radio, c'est magnifique.
Je signale à tout le monde que la licence est passée de 76 à 95 euros. Avec un argument, vous aurez une gourde en plastique.
le problème, papy.
Et je l'ai eu et j'en suis vachement content.
Le problème, c'est que t'as zappé une année, toi, papy.
Ah, j'ai zappé une année.
T'as zappé une année.
J'ai zappé. Et on va faire notre première coupure musicale. Joël, ça va être à toi. Attention, ça va être la sélection d'Alan. Alan, donc c'est lui qui prend ses responsabilités.
Ouais.
Allez, à tout à l'heure. On vous attend évidemment sur Sport Épic. À tout à l'heure, messieurs.
Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaître à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
Vous y êtes, c'est toujours Sport Épique, c'est toujours dimanche matin, c'est toujours confinement, mais pas à 11h évidemment, puisque vous êtes en pleine évasion. Alan est toujours là avec nous, merci Alan. On va finir sur cette petite page d'un président de club, amateur quel qu'il soit, à savoir tout simplement, évidemment, cette fameuse crise sanitaire. Comment tu gères ça? C'est quoi ton rôle? Quel est le lien avec tes entraîneurs, avec tes joueurs? Avec, est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place pendant cette période-là? Ou bah, tout simplement, tout le monde fait le dos rond et on attend?
Eh ben, c'est. On parlait, tu vois, des mauvais moments de présidence. Je t'avoue qu'en juin, par exemple, c'était pas un super moment, quoi. C'était pas très agréable. Depuis 6 mois, c'est un peu beaucoup le bordel. Même là, tu vois, on attendait encore les décisions pour savoir ce qu'on fait. On reprend pas, on a repris, on arrête, on recommence. Aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de boucher les trous et de prendre toutes les infos au maximum et ensuite les retranscrire aux personnes concernées. Et ce qui me prend le plus de temps à ce jour, réellement, c'est même pas réellement le club à gérer, c'est plus le groupement Val-de-Joigne, parce qu'on est 3 clubs pour gérer tous les gamins. Et là, il faut qu'on ait quelque chose de cohérent, parce qu'on est 3 clubs.
Ouais. Val-de-Joigne, il faut rappeler, c'est un regroupement de 3 communes autour de Forcé. Et bah là, c'est pareil. Hein. Vous connaissez peut-être pas les petites guéguerres du coin, mais c'est en général, c'est pas la joie entre Forcé et Antram. Et derrière, il y a une entente. Alors moi, c'est dingue parce que moi, je suis sur le terrain. T'entends autour du terrain, ça crache tout ce que ça veut sur Antram. Et le samedi matin, tous les gosses sont en train de jouer les uns avec les autres. Donc,
On arrive à changer ça quand même. On arrive à changer ça.
C'est tant mieux. J'avais envie de te demander peut-être sur la fin, Alan, mais moi j'ai la réponse, mais c'est pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on fait grandir un club? Vous imaginez pas l'impact qu'a eu Alan et l'impact qu'a eu celui qui est Maxime. Maxime qui est président de l'ensemble de
l'Omnisport
de Forcé et qui est un génie de tout ce qui est informatique et de communication informatique. Il vous a créé un site extraordinaire qui fait parler de Forcé dans tout le département et ailleurs, puisque moi j'ai des potes qui me disent, mais hors département, putain, c'est dingue ce que vous faites à Forcé. Bah ouais, et comme quoi cette fameuse R de la communication, putain, c'est primordial, parce que Alan, tu le disais tout à l'heure, on est passé peut-être de 80 à 200 personnes dans ce club, et cette... Alors, bien sûr, ton impact n'est pas anodin, mais ce que fait Maxime aussi avec ce fameux site, c'est énorme pour un club.
Bah, c'était la volonté aussi. Hein. Quand j'ai pris la présidence, il n'y avait pas de réseaux sociaux qui étaient activés sur le club. Ouais. Ce n'est pas une volonté de l'ancien président. Moi, pour le faire grandir, il fallait les réseaux sociaux. J'ai trouvé la bonne personne. Lui, il a bien voulu aussi participer. Donc voilà, on s'est entendu. On va dire la première année, il m'a envoyé tous les visuels, je validais tout. Puis au bout d'un an, je dis bah non, c'est bon. Enfin, tu sais faire, t'as compris globalement l'idée que j'avais. Maintenant, bah t'as carte blanche, débrouille-toi. Et ça marche comme ça très bien. Il faut aussi qu'on se fasse épauler aussi à gauche à droite, forcément. Mais c'était l'objectif. Il fallait qu'on grandisse. Et ça passe par ça.
Ça marche très fort, c'est dingue parce que nous, plus vieille génération, Alan, c'est simplement, on est content d'aller bouffer une saucisse avec notre pote au club. Ouais. Maintenant, c'est vrai que ça passe par tout ce truc-là, tout c'est comme tu disais, les réseaux sociaux. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien. En tout cas, pour Forcé, c'est un grand tant mieux puisque le club a bien, bien grandi. Gilles Bott.
Ouais, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous avez réussi à développer le club, à avoir à recruter en fait. Avec le site.
En fait, on recrute pas par le club, mais vu que les réseaux sociaux, en fait, si tu arrives à faire une très bonne communication, mais comme dans tout secteur, tu fais une très bonne com, ça attire, et du coup, honnêtement, je crois qu'en 4 ans de présidence, on n'a pas recruté de joueurs. Je crois pas. Je crois qu'ils sont tous venus vers nous. Alors si avec le nouvel entraîneur, il y en a ramené quelques-uns. Oui. Mais dans l'idée, cette année, il y a eu, honnêtement, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 joueurs recrutés par l'entraîneur et on a eu 27 arrivés.
Et là, tu parles de l'équipe des seniors. Tu parles
des seniors, juste des seniors.
Que les jeunes, c'est captif, quoi. Ils sont du coin.
Les jeunes, ils restent dans le coin ou c'est un copain qui vient. Mais c'est les seniors. Ouais. C'est les seniors où on a vraiment explosé. On est à 5 équipes seniors aujourd'hui. Enfin, 4 seniors plus une vétéran. Alors qu'avant, il y a 3 ans, on était à 2 équipes seniors.
Et ceux qui arrivent, ils te le disent. Ils te le disent pour ça. Ouais. Ben c'est le site. Le site fait rêver, le machin. Forcément, il y a plein de trucs sur l'ambiance, évidemment. Mais du coup, je pense que ça se passe dans énormément de clubs, ces bonnes ambiances, machin. Mais si tu n'as pas une pointure au niveau informatique et visuel et communication et tout ce que tu veux à la tête, ça ne peut pas se savoir. Donc,
c'est ça.
Moi, j'encourage tous les clubs de partout à aller vers ça parce que c'est un excellent outil.
C'est le reflet de la bonne ambiance aussi. Si tu as une bonne com et une mauvaise ambiance, c'est un peu le reflet de.
C'est comme tous les clubs. Tu peux avoir une très bonne communication, mais si à un moment donné, le club, c'est nul parce que personne ne s'entend dedans, de toute façon, au pire, ils y vont un an et puis ils arrêtent après. Les joueurs, ils viennent. Alors, forcément, ça fait beaucoup parler le Facebook et Twitter aussi, parce qu'on essaie vraiment de s'y mettre à Twitter, à Instagram. Mais c'est le Facebook qui nous fait énormément marcher. Et puis derrière, les gens connaissent l'ambiance. Ils savent le dimanche quand ils viennent. Moi, je suis un président où je jure, de toute façon, dès qu'il y en a un qui insulte ou qui crie, ou moi, ils payent les cartons chez moi parce que, voilà, on respecte tout le monde. Je souhaite et j'insiste pour que la bouffe et qu'on boive un coup tous ensemble à la fin du match, même si ça s'est mal passé. Enfin, voilà, et tant que ça reste comme ça, ça vient.
Ouais, moi la dernière fois j'ai perdu 4-0, je me suis barré avant la bouffe. Fred.
Ouais, moi, je voulais justement savoir si tu n'avais pas peur d'être victime de ce succès, parce que quand tu dis qu'il y a 27 gars à débouler comme ça, c'est super. Mais d'un autre côté, tu as peut-être aussi des historiques qui peuvent être frustrés. Enfin, j'ai une bêtise, mais le gars qui était habitué à être, je sais pas, stopper ou arrière-gauche en équipe première, et, potentiellement, il peut se retrouver en C à la rentrée suivante. Tu as des gars qui étaient, tu sais, dans leur confort, dans leurs habitudes, et d'un seul coup… parce que la nouveauté, ça peut faire peur aussi quand c'est en trop grand nombre, quoi.
Ah, c'est pas la peine de me regarder quand tu dis ça. J'accepte ma place en B.
ce qui est le plus drôle, c'est que ceux qui étaient vraiment en panique sont partis d'eux-mêmes.
Ouais.
Donc, ouais. Ceux qui étaient en stress sont partis. Ceux qui aiment le club et qui savent ce qu'on en fait, eh ben, ils sont restés, ils ont toujours leur place, ils se battent. La plupart des joueurs qui sont arrivés, j'avais prévenu aussi les joueurs qui arrivaient, c'est qu'on a créé une équipe et on voulait qu'ils aillent là-bas, parce qu'on ne va pas tout changer non plus, on ne va pas tout révolutionner. Donc voilà, je voulais garder une ossature d'équipe première qui pour moi était importante avec quelques atouts, mais il fallait qu'on garde la plupart de nos joueurs, et j'ai insisté auprès de Julien. Et il a très bien compris que voilà, le but, c'était pas d'exploser le club et d'en faire une machine, une usine à gaz. Je veux pas de ça. Je veux pas, et c'est pas une critique ce que je veux dire, mais je ne veux pas devenir un Bonchamp, un Changé, un Saint-Berthevin qui est monté comme en flèche et qui vient de redescendre. Voilà, on est un petit club. Si on monte en R1, je l'ai toujours dit et je crie haut et fort, si un jour on monte en R1, mes joueurs n'auront jamais de prime. Ils viendront jouer le dimanche pour jouer au foot, pour boire un coup avec moi à la fin, mais ils n'auront jamais un centime à forcer. Et je le dis haut et fort et je l'ai toujours dit. Pour moi, ça aussi, ça tue le foot amateur.
Voilà. Ouais, tu me fileras quand même 2-3 petits trucs, Alan.
2-3 bières, si tu veux.
Lionel, pour finir, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose ensuite.
Oui, juste un mot, je voudrais savoir un petit peu comment tu gères également les relations avec la municipalité. Est-ce que le moment des élections est un moment tendu ou totalement anodin pour toi en tant que responsable d'un grand club et donc de beaucoup de vie de société là-dedans? Est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses sur ces relations-là et comment tu les qualifierais?
Eh ben, les relations sont très bonnes. J'étais pas du tout en stress pour les élections. Je savais que la mairie allait se renouveler. Il y a des nouveaux membres forcément qui arrivent. Ça se passe très bien. Je m'entends très bien avec vraiment avec la mairie, avec le jardinier qui entretient le terrain, avec qui on s'entend. La moindre demande, il nous faut des autorisations de la mairie, par exemple, pour avoir repris les entraînements au 28 novembre avec les jeunes. J'ai envoyé le protocole à la mairie, ça a été validé en 2 heures. La mairie me fait entièrement confiance et madame le maire en particulier. Ça se passe vraiment très bien. Après, faut être ouvert et être, pour ma part, franc. Elle sait me dire non, et si c'est non, c'est non. Je vais pas insister, mais comme elle voit que le club marche bien et que tout le monde est content, elle a aucune raison de me dire non généralement. Si c'est cohérent aussi, ce que je demande, bien sûr.
Bravo, Alan. Bravo à toi, parce que je dis et je le redis, ton rôle est vraiment pas facile, et je félicite par ce biais, évidemment, tous les présidents de sport amateur de notre cher département et de notre cher pays. On va élargir, Alan, hein, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Si merci, toi,
ça a été un plaisir. Sinon, on te libère. Merci beaucoup.
Merci.
Messieurs, semaine très bizarre. J'ai invité, on ne le dit pas trop fort non plus parce qu'on n'a pas le droit, mais j'avais du monde à la maison quand même mardi pour le pari. Bon, au bout d'un quart d'heure, le match, il est plié. Il est plié. Et je ne sais pas, moi, ça commence à me poser un gros, gros souci. Le fait qu'on ait absolument plus droit de rien dire. Parce que une personne a été désignée de noir, et ben quand quelqu'un est très grand parmi des petits, on va les désigner de grand. Quand quelqu'un est petit parmi les grands, on va dire le petit. Et à l'arrivée, c'est pas une insulte, c'est juste simplement pour désigner la personne. Et moi, je trouve qu'on est en train de faire vraiment, on est en train de surenchérir sur toutes ces polémiques, et ça commence vraiment à me fatiguer. Et je remercie Joanne Micou sur l'équipe TV, la très très bien dit à ce moment-là. Il dit calmez-vous sur un banc de touche, hein, si vous voulez désigner quelqu'un. S'il n'y a qu'un noir parmi les blancs, on va dire les noirs. S'il n'y a qu'un blanc parmi les noirs, on va dire le blanc. Et il n'y a pas forcément de racisme, enfin c'est même pas forcément, il n'y a pas de racisme là-dedans, on désigne une personne. Gilbo.
Ouais, là ça marche au raisonnement, c'est allant zéro, quoi. Sauf qu'il n'y a jamais eu de génocide de, ou les chauves ou les grands qui ont été mis en esclavage. Donc voilà, il y a peut-être une histoire à prendre en compte. Les Noirs, il y a quand même un historique, ils ont été quand même un petit peu maltraités tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est juste ça qui fait qu'on ne peut pas se permettre de les désigner à nouveau. Voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont mal perçus.
Il y a jamais alors à ce moment-là, petits,
voilà.
Si on suit ton raisonnement, Gilbo, faut reconnaître que c'est vrai, les Noirs, comme les Juifs, ont bien trinqué depuis des millions d'années. Les femmes, c'est pareil, elles ont pas mal bombardé depuis des millions d'années. Mais s'il y a une femme parmi un homme, parmi plein d'hommes, quand tu vas vouloir désigner la personne, tu vas dire la femme. Il y aura rien là-dessus, il y aura rien de connoté négativement. C'est juste c'est une femme parmi les hommes, c'est plus simple de dire la femme que la personne qui porte un pantalon rouge et qui machin. Donc c'est moi je trouve que pour désigner quelqu'un à un moment c'est quand même plus simple de dire ce qui le caractérise.
Non, sauf que là quand tu dis nègre, tu dis pas le noir, tu dis nègre. C'est comme si tu disais la gonzesse ou le nain là, le nain. Voilà.
Ça, On est d'accord. Je te laisse parler, Fred.
Il y a un jugement de valeur quand tu dis à quelqu'un qu'il est nègre. Il y a un jugement de valeur. Ça peut pas passer.
On est d'accord, mais tu peux pas te permettre de dire ça, Gilbo, parce que la polydimie, tu la connais et que moi, je parle pas roumain et toi non plus, je pense pas. Mais si le trio d'arbitre est roumain, noir, si ça se dit négro, j'en sais rien hein, si ça se dit comme ça. Mais si ça a été une explication, le type a juste voulu désigner le noir qui était sur le banc de touche. Il n'y a pas une honte à être noir non plus, Fred.
Il se renseigne quand même sur l'histoire, le roumain quand même.
Justement, c'est pour ça, c'est une maladresse au point de départ, c'est une mauvaise interprétation du coach, enfin du coach adjoint, et qui ça peut se comprendre parce que lui non plus parle pas le roumain, donc c'est une mauvaise interprétation au départ. Et ce qui m'embête moi, c'est qu'effectivement après c'est des postures, on monte en épingle quelque chose qui est juste une incompréhension initiale qui aurait dû être résolue assez rapidement et puis tout le monde se calme. Parce que, je veux dire, s'il y a bien un sport où il y a un vrai brassage, un vrai melting pot, c'est quand même le football. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, je comprends très bien Webo qui ait mal interprété le terme et qui soit choqué sur le coup. Mais normalement, ça méritait une explication très simple. Et puis derrière, c'est réglé. Et ce qui est toujours embêtant dans ce type de situation, c'est que tout le monde en prend, enfin, les médias grossissent ça et ça perd son crédit. Et je dis, moi, quand je vois les gars après qui se mettent à genoux, poing levé, etc., ça prend des proportions qui sont dingues, alors que c'est juste une mauvaise interprétation initiale et une réaction épidermique qui peut se comprendre sur le coup. Ça mérite une explication, une clarification, puis c'est terminé, quoi. Il n'y a pas besoin faire des polémiques pour faire de la polémique. Quoi.
Quand on parlait avec Alan tout à l'heure de la force de la communication, si là on n'est pas en plein dedans sur tous ces foutus journaux là et foutus magazines qui t'en balancent et t'en balancent des polémiques en veux-tu en voilà, là on est en plein dedans. Lionel ?
Oui, je partage vraiment l'analyse de Fred. Il y a eu un jeu de posture, effectivement. On a bien compris assez rapidement qu'il y avait eu une confusion avec ce terme qui est clairement roumain, qui désignait donc un homme noir. Et qu'après, il y a eu cette gêne. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, nègre, si c'est vraiment nègre, c'est une insulte inacceptable. Et puis après, si c'est seulement noir, il était coincé, gars. Il a dit « Bon, t'as pas qu'à m'appeler noir, même pas. » Et c'est parti en épingle dans un monde et dans un univers. On sait bien que la Champions League prône une lutte contre le racisme. On est en plein dedans. Là, on était parti et je trouve, moi, les commentaires du lendemain au niveau des journalistes, on a eu beaucoup de journalistes qui se sont, comment dire, qui sont rentrés dans ce jeu-là. De lutte énorme contre c'était magnifique le geste de tous ces joueurs et tout, alors que c'est un malentendu.
On adore ça.
Et il fallait que les journalistes se aient une posture, comme disait Fred.
On adore ça, Gilbo.
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, ce qui me fait marrer quand même, c'est que là tous les joueurs sont hyper contents de s'en prendre à l'arbitre, parce que les mecs sur les terrains, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à s'insulter. Et là, hop, c'est l'arbitre. Ils se mettent tous d'accord pour contre l'arbitre. Donc, c'est complètement débile. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils se disent sur le terrain? Ils s'insultent en permanence. Faut arrêter les âneries.
Tout à fait. Et moi, j'en reviens à mon parallèle de tout à l'heure. Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on a sacralisé la femme au niveau sportif. On est en train de dire que la femme, le football féminin, c'est 10 fois mieux. Le rugby féminin, c'est 10 fois mieux. Le volley, tout ce que vous voulez. On sacralise la femme comme c'est pas permis. Et à l'arrivée, parce qu'on nous explique tout le temps qu'il n'y a pas de tricherie, parce qu'on nous explique tout le temps qu'il n'y a pas de mauvais esprit, parce que là, vous voyez ce qui se passe avec Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. C'est quand même un sacrément beau merdier. Toutes ces Lyonnaises qui dirige le groupe France. C'est quand même énorme la simulation qu'il y a eu lors de la dernière Coupe du Monde et qui montre très bien aussi que quand il faut gagner, les femmes sont aussi perverses que les hommes. Il n'y a rien dans les gènes qui disent qu'une femme ne va pas plonger. Par moment, elle va plonger aussi. Et attention, je ne défends pas ça du tout, mais j'en ai surtout, moi, ras-le-bol qu'on nous sacralise le sport féminin, que, comme quoi ce serait des anges et nous, les hommes, on serait des démons. C'est absolument pas ça. On est tous à un même niveau.
Chilbo. Comme quoi, les femmes sont des hommes comme les autres.
Qu'est-ce que tu parles bien, mon ami. Ouais. Donc, on est d'accord. Tourelle miraculé, messieurs. Moi, je le trouve miraculé, ce type, parce que avant son match face à Leipzig. Le match est pas bon. Le match de Paris est pas bon. Ils s'en sortent vraiment. Ils sont très très heureux de s'en sortir. Là contre Manchester, ça démarre vraiment très mal. Et t'as quand même Martial qui te fout la barre transversale. Ça peut rentrer dedans. Il y a rien à dire. Et ensuite, c'est vrai que sur les 20 dernières minutes, c'est Paris qui déroule. Mais le mec, il perd à Manchester où il fait un nul contre Leipzig. C'est terminé pour Tourelle. Et là, comme d'habitude, quand on passe d'un côté à l'autre, là Tourelle s'est redevenu un bon entraîneur. Fred.
Ouais, alors c'est vrai que le match contre Leipzig, c'était vraiment un match charnière. C'était un match pourri, mais ils l'ont gagné. Ça me fait un peu penser à des parcours, tu sais, un peu comme le Real de Madrid qui fait des matchs de merde, c'est dégueulasse, et ils arrivent toujours à s'en sortir. Alors c'est bien que pour une fois, ce soit une fois entre guillemets, un club français, parce que Paris, ça a pas été beau, puis ça commence à progresser. Pour la petite référence, la barre transversale, c'est Cavani et pas Martial. Martial, lui, il a mis un drop à 30 centimètres du but.
Mais Martial, Fred, t'es dur. Martial, il peut planter deux fois. Le gardien joue très bien le coup deux fois.
Ouais, enfin, il met un drop à 3 mètres au-dessus quand même. Mais ce qui est toujours dingue, c'est que tu t'aperçois que à la fois une saison, mais aussi peut-être une carrière pour l'entraîneur, ça joue à rien, quoi.
Rien.
Ça
rien,
se joue ouais. à rien.
Et ce qui est en train de se passer avec Zidane, c'est exactement ça. Le
bien
mec,
sûr.
Il était cloué au pilori il y a juste avant le match, leur dernier match de Ligue des Champions. Ça y est, il gagne son match. Ça y est, Zidane redevient Dieu. Est-ce que Zidane, j'entendais ça, est-ce que Zidane sera le Sir Alex Ferguson du Real? Et Zidane, il dit non, mais calmez-vous, j'ai juste gagné un match de Ligue des Champions, là, c'est tout. C'est Gilbo ou Fred, je ne sais plus. C'est Gilbo, je crois, mon Fred.
Ouais, juste pour dire que, en fait, Tourelle n'était pas véritablement menacé, je ne pense pas. Il était le mec, parce que toutes les grosses écuries ont des grosses difficultés en ce moment. Il a juste Leonardo qui l'a en ligne de mire. Mais c'est vrai que s'il ne passait pas le cap de qualif en Ligue des Champions, ça pouvait être compliqué. Mais
c'est le seul objectif de la saison. Donc, Fred.
C'est clair que s'il ne gagnait pas contre Leipzig, il dégageait. Quoi. Donc ça ne joue à pas grand-chose. Comme Zidane dégageait s'il ne battait pas Mönchengladbach. Ça ne joue à pas grand-chose. Ça ne tient à rien. Donc on fait souvent référence à, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, la chatte à Dédé en parlant de Didier Deschamps, mais je trouve que Zidane, il est bien, bien, bien verni, parce que quand on voit son parcours, même personnel, c'est un gars qui aurait pu être éreinté complètement, etc. Il s'en sort super bien et ça continue, parce que là, les matchs sont pas beaux, mais ça se sauve. Ça finit même premier pour le Real, ce qui est hallucinant, parce qu'ils auraient pu être éliminés.
C'est hallucinant.
Après, c'est pareil pour Paris, parce que on en vient même à penser que Danilo est pas mauvais comme arrière central, alors que c'est quand même un tank qui bouge pas. Je pense que ça pourrait être une bonne recrue pour forcer, mais
il y a du monde en charnière. Mais moi, je reviens à l'intelligence de Zidane pour le coup, c'est sur ses dernières déclarations, c'est qu'il vous dit, il dit très clairement, non mais arrêtez l'emballement, arrêtez de me couler au pilori quand ça va pas, et arrêtez de m'encenser quand ça va. Laissez-moi juste faire mon job. Et non, je ne serai pas sur avec Ferguson. Non, je ne vais pas durer 17 ans. Je ne pourrai pas faire ça. Et je trouve ça intelligent de sa part. Lionel et Fred.
Oui, mais je pense que Zidane peut dire ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. De toute façon, les médias, les journalistes iront toujours dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre, parce que les lecteurs, les auditeurs, ils veulent ce genre de sensation.
Ils veulent ça, c'est terrible, Fred.
Je pense surtout qu'à Madrid, ils ont intérêt à faire une statue pour Ramos. parce que dès qu'il n'est pas là, ça part en cacahuète. Varane, tu dirais un stopper de PH. Et dès qu'il revient, bah, il s'en sort. Donc, tu te dis qu'il y a aussi des joueurs qui savent vraiment tirer un groupe vers le haut.
Incroyable,
quoi.
Incroyable. Justement, ces joueurs qui tirent vers le haut, est-ce qu'il est sous-coté ou est-ce qu'il n'y a que moi qui le trouve fabuleux ? Verratti, je trouve, pour moi, c'est le meilleur joueur de la planète, quoi. Oui. Je le trouve complètement exceptionnel. Alors moi, c'est un petit peu mes postes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est milieu défensif récupérateur et qui se permet en plus parfois de faire le lien entre la défense et l'attaque. Le mec est d'une technique admirable. Il abat du boulot, il est agressif sur le ballon. Il est vraiment fabuleux, le Fred. Et Lionel.
Ouais. Et ce qui est sympa, c'est qu'il crayonne un peu aussi de temps en temps. Donc il a du caractère, c'est beau.
Et si vous connaissez évidemment Fred Guerrier dans le département, bah vous saurez que c'est un petit spécialiste du domaine. Mais, ouais, Lionel mais... et mon Gilbo ensuite.
Oui, juste. Et tu, dans cette échelle-là, tu mets où N'Golo Kanté ?
Bah, tu vois, je trouve Verratti au-dessus parce que Verratti va être capable de faire cette fameuse passe Ligue d'Esch, comme on dit, la passe Ligue d'Esch. C'est celle qui va te casser les lignes. Et lui, va vraiment être capable d'aller te chercher des passes millimétrées sur des tout petits espaces qu'il trouve. Je le trouve absolument fabuleux, ce type. C'est Gilbo et Fred.
Ouais, complètement d'accord. Et clairement, on parlait de Ramos tout à l'heure. T'as un pari avec Verratti, ouais, sans Verratti, ouais. C'est clair et net. Le mec, mais c'est un petit génie du ballon.
C'est un petit génie, clairement.
Le truc qu'il apprend, c'est qu'il ne marque jamais de but.
Sur la...
Ouais, Fred ?
Ouais, je suis d'accord avec Gilbo sur la fin de l'intervention. C'est clair qu'il transforme Paris. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je ne suis pas d'accord sur le truc N'Golo Kanté. C'est que le problème de Verratti, c'est qu'il va toujours faire… Il va fondre un fusible à un moment ou à un autre parce que là-dessus, il n'a pas progressé en 10 ans. Alors que Kanté, tu peux être sûr, c'est un soldat. Lui, il va jamais se laisser emporter par son état d'esprit. C'est le seul bémol pour Verratti, mais c'est ce qui fait son charme aussi, parce que il a une certaine grinta et puis il se passe toujours quelque chose.
Ouais, c'est pas. Enfin, moi, tu vois, j'en ai un petit peu marre des gens qui parlent du charme de la grinta et d'un mec qui insulte les arbitres non-stop. Tout ce côté-là, je l'aborde. C'est insupportable. Par contre, très clairement, est-ce qu'il est sous-coté ou non ? Vous êtes peut-être plus au courant que moi, mais j'ai pas l'impression que les clubs se battent pour ce type-là. Ben moi, si je suis responsable d'un gros club, putain, je vais chercher Verratti, quoi. C'est une pépite. C'est Gilbo et Fred. Après.
Ouais. Et puis il est pas sous-coté. Mais le petit point aussi, c'est qu'il est souvent absent aussi.
Il est souvent blessé. Ouais.
Parce qu'à chaque fois que Paris est passé à la trappe, il était quand même pas dans le coup. Il était pas là. Donc, voilà. Mais... Et après, il a quand même failli partir à Barcelone. Je pense que les mecs sont au taquet pour l'obtenir. Mais c'est vraiment le joueur de Paris pour l'instant.
Ah ouais, Fred.
Et on je pense que c'est un tout. Parce que je pense que les clubs savent aussi qu'il est difficilement gérable. Donc ça en refroidit certains. Ensuite, je pense qu'effectivement, à une certaine époque, ce type de milieu a été sous-coté. Lui, comme Kanté, il a fallu un certain temps avant qu'un club se décide à investir dessus. Alors qu'effectivement, des équipes comme Barcelone, Madrid, s'ils avaient un tant soit peu d'intelligence, auraient recruté des gars comme ça depuis très longtemps, quoi.
Ouais, très certainement. Alors, Paris s'est battu longtemps pour son fameux 6. Moi, je trouve qu'on aurait pu bâtir un petit peu plus autour de lui, sachant que c'est une pièce maîtresse. Alors, c'est peut-être pas une sentinelle à proprement parler parce qu'il fait le lien, mais je le trouve fabuleux. On avance, mon Fred, je sais que tu as plein de choses à dire. On avance, Rennes, mon ami Gilbo, Rennes, la dernière des confitures, Rennes, le grand adieu. Mais Rennes, ça va au-delà de ça parce qu'il faut aussi regarder le championnat et on nous prouve une fois de plus qu'une équipe qui n'est pas taillé, qui n'a pas la masse salariale et qui n'a pas le nombre de joueurs suffisant, ben forcément se fait dépecer en Ligue des Champions. On est ridicule sur la scène européenne, mais en plus, ils sont en train de crever sur la scène hexagonale. Et ben moi, je trouve ça dur pour un club, la double peine. C'est Gilbo, évidemment, et Fred derrière.
Alors là, clairement, Rennes, ils ne sont pas taillés pour la Ligue des Champions. Quand on voit que, par exemple, Manchester United, il passe à la trappe, tu ne peux pas lutter, c'est clair. Et puis, petit point par rapport à ça rejoint le débat précédent, c'est-à-dire que Rennes a été encensé au début de saison. Oui. Donc, les mecs, Rennes, et puis maintenant, tout le monde crache dessus, quoi, grosso modo. Alors qu'on sait très bien que la Ligue des Champions, ça les a
crachés. Crash Novarne.
On est complètement dans l'immédiat. On n'a pas aucun recul sur le jugement. Et il n'y a aucun mec, même, je sais, au tirage, il y a même des mecs qui disaient que Rennes va peut-être pouvoir passer et tout. Et tu regardes Chelsea, Séville, non, on ne peut pas passer, c'est pas possible.
Ouais. Fred.
Ouais, puis là, c'est le bon exemple, parce que c'est vrai que moi, j'avais misé une pièce sur Rennes, pas pour se qualifier, mais au moins pour faire un parcours honorable. Et ils ont été très décevants. Mais là où tu as parfaitement raison, c'est qu'on voit toute la différence entre un Camavinga et un, le milieu de terrain, c'est un Verratti. Ce que je veux dire, ou un N'Golo Kanté, c'est que tu peux être bien sur un moment, avoir, on peut fonder des espoirs sur toi, mais confirmer, avoir la régularité à ce niveau-là et tout, on s'aperçoit que ça s'acquiert difficilement et qu'il faut être, sacrément bâti et costaud pour le faire. Et Rennes, on a vu toutes ces grosses lacunes sont apparues de manière flagrante. Le défenseur central et capitaine aussi. Mais là, tu.
Chez lui, à nouveau. Il est dans le dur, mon Da Silva.
Là, c'est pareil, c'est forcé l'an prochain, quoi, Da Silva. ça fait. C'est triste.
C'est pas possible.
Alors que c'est des bons joueurs, mais là, c'est le cap au-dessus. Et là, c'est flagrant, les lacunes,
ça
quoi.
Ça passe pas. Lionel.
Oui, non, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Gilbo, sur certaines équipes. Il a parlé de Manchester United et moi je remarque que sur les 8 poules là qu'on a vu, il n'y a aucune surprise, aucune. On aurait pu dire avant qui étaient les deux premiers de toutes les poules. Ouais. À part peut-être là celle où il y a Manchester avec Leipzig là, mais avec Leipzig, mais sinon tout, il n'y a aucune surprise.
Eh ben, je vais te dire, mon Lionel, et je sais que tu es un spécialiste également, c'est quand même la Champions League, le paradis des pronostiqueurs. Parce que va te faire, toi, pronostiqueur pro de Ligue 1, ben, je vais te dire, t'es ruiné, en 3 semaines, t'es ruiné. Va te faire pronostiqueur de Ligue Desch, ben, comme tu dis, dans tous les groupes, ben, c'est les deux meilleurs qui sont passés, et c'est pas mal quand même de pouvoir se reposer sur certaines choses. Alors, vous allez arguer que non, Manchester, d'accord. Il va y avoir une exception dans un groupe, mais tout le reste, on peut quand même dire que les grosses écuries, c'est quand même des valeurs sûres.
Bah, je suis pas trop d'accord. Le meilleur exemple, c'est quand même Mönchengladbach qui passe, alors que l'Inter de Milan reste sur le carreau. Il y en a pas beaucoup qui devaient avoir parié sur Mönchengladbach, quoi.
Ouais, peut-être l'Inter aussi. Peut-être l'Inter. Et encore.
Non, mais d'accord, mais n'allez pas me citer le cas où ça marche pas. Mais dans la globalité, ça marche quand même.
Ouais, globalement, mais c'est aussi parce que c'est des équipes qui sont armées pour ça, quoi.
C'est armé.
Dernier de son groupe, l'Inter.
Ils auraient pu se qualifier d'un côté, quoi.
Ouais, mais tu vois, l'Armada,
c'est toujours tout, pareil, ouais.
Non, mais c'est quand même dingue, quoi.
Rennes, Marseille, on va pas en parler, c'est pareil, c'est critiquable, mais ça a déjà été dit et redit. Donc, à l'image de Rennes, t'es pas taillé Ligue Desch. Tu n'y vas pas. J'en avais parlé au début de saison. On m'avait dit, mais regarde, c'est nous qui sommes le mieux représentés sur la scène européenne à la fin du Super 8 de Ligue des Champions. On a Lyon et Paris à la fin. C'est la France qui est mieux le représentée. Mais on sait très bien que c'était un arbre qui cachait la forêt. On savait très bien qu'on allait se faire étrier sur la scène internationale. Ça n'a pas loupé. Donc, on est un petit pays de foot. Respectons-le. On va y aller avec une équipe. Et puis, c'est tout. Arrêtons cette mascarade, Lionel.
C'est tellement vrai que ni Rennes ni Marseille ne vont en UEFA, quoi.
Ouais, c'est, enfin, je rigole. Non, je suis malheureux pour eux, mais c'est vrai, putain, c'est dur, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Fred.
Ouais, mais je pense que c'est aussi bien pour Marseille, hein, parce qu'ils étaient incapables, ils n'avaient pas l'effectif pour être sur deux tableaux. Donc, vaut mieux qu'ils se concentrent sur le championnat, quoi.
Ouais, mais alors te concentrer sur le championnat, ça va être toujours des, parce qu'ils vont pas être champions puisque c'est Paris. Donc tu vas te concentrer pour aller en Ligue des Champions. Tu vas aller en Ligue des Champions, tu vas te faire étrier et l'année prochaine on va te dire, tu vas jouer le championnat pour aller en Ligue des Champions. Donc le fameux serpent qui se mord la queue, on est en plein dedans là.
T'as quand même Lyon et Lille qui seraient taillés aussi pour l'Europe, quoi. Donc faut pas tirer des conclusions. Lyon est taillé pour l'Europe. Alors après on a rigolé parce que là s'il pleurait, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Lyon, clairement.
Ouais, je suis pas sûr, Fred.
Pas tout le football français.
Je suis assez d'accord avec Gilbo sur ce coup-là. La plus belle équipe depuis ces 2 derniers mois, c'est Lille. Et Lyon revient très fort. Donc, effectivement, je pense qu'ils auraient donné un tout autre visage du football français s'ils avaient pu participer au match de poule.
Messieurs, on va quitter un petit peu le football. Ça m'agace parce que j'aurais aimé parler de l'enfer que vit le Barça. C'est quand même dingue, quoi, sur les 4 dernières années. Ils te bouffent des remontadas de dingue, même si c'est quand même Paris qui reste le symbole de la remontada. Eux, ils t'en mangent un sacré paquet, là, tous les ans. C'est dur. Est-ce qu'il faut tout changer? On ne sait pas. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Je ne sais pas. J'aurais aimé parler football aussi avec Christian Gourcuff, encensé sur ses années lorientaises. pas capable de passer la barre dès qu'on change de club. Est-ce que c'est un symptôme Gourcuff? Est-ce que c'est un symptôme plus large? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le fait d'avoir des stars dans une équipe à gérer ou non? Mais bon, on a déjà fait pas mal de foot, messieurs. J'avais envie de m'arrêter, bien sûr, sur la technique. Est-ce un bien ou un mal, toutes les innovations techniques? Grosjean, en Formule 1, est sorti de sa voiture au bout de 27 secondes en flamme. Alors, c'est pareil, hein, ça, on en a beaucoup déjà parlé dans toutes les émissions, mais le type, faut pas dire que c'est de la chance. Le type, c'est que il y a une avancée technique phénoménale dans ce sport-là, où on était dans les années 70, où le fameux, j'ai oublié son nom maintenant, disait, mais quand je prends le départ, je sais que j'ai 20% de chance d'y rester. Bah, maintenant, c'est quand même plus du tout ça, hein. Maintenant, tu peux rester dans ta bagnole en flamme. Alors, je le conseille quand même à personne, hein. Mais les mecs, la combinaison, les censés, ils disaient te dire 45 secondes. C'est hallucinant, 45 secondes. Donc, la technique nous apporte pas mal de choses, mais il y a aussi ces détracteurs dont tu fais partie, Fred, puisque toi, tu vas critiquer une équipe comme Mercedes. Mercedes a construit une voiture extraordinaire pour le moment, hein, à l'heure où on se parle, c'est la meilleure des bagnoles. Et toi, tu critiques ça, l'air de dire il y a même plus besoin de faire un championnat de F1, c'est même pas la peine d'être un bon pilote pour la piloter, mais on peut pas en même temps encenser la technique et la critiquer dans notre sens. Fred.
Ouais, mais c'est qu'on a vraiment, on a eu l'exemple flagrant le week-end dernier où un illustre inconnu, enfin pas si inconnu que ça, mais le gars il déboule, il est trop grand pour la bagnole, je veux dire il a les oreilles qui dépassent du casque, enfin bref. Et le gars, il était en passe de gagner le Grand Prix. Si bien que Mercedes a été obligé de truander quand même pour le lui faire perdre. Pour sauver l'honneur, je dirais, l'honneur d'Hamilton. Donc là, ce que je veux dire, c'est que la différence avec les autres équipes est tellement flagrante que ça perd tout son charme. Je te dis, Hamilton, il pourrait être en t-shirt avec le coude à la portière, quoi, et il serait champion du monde. Donc c'est pas très intéressant.
Les ingénieurs de Mercedes, t'étais obligé d'avouer que les mecs c'est des génies. Enfin, ce sont des génies quand même. Les types, ils ont créé la plus belle bagnole du moment. Soit. Pourquoi on irait critiquer ça? Pourquoi on irait dire que c'est pas bien? Là, t'as fait une combinaison qui tient 45 secondes dans le feu. Formidable. Bravo aux ingénieurs qui ont créé ça. Moi, je dis bravo, mais qui ont créé la Mercedes, même si c'est vrai qu'on se fait chier à mourir devant la F1.
Ah mais justement, dans ces cas-là, moi, je voudrais pas entendre le nom d'Hamilton. Je voudrais entendre le nom de Mercedes, je voudrais connaître le nom des ingénieurs, de la cellule qui a développé cette structure et tout, pour dire que c'est, technologiquement, ils ont fait des choses formidables. Mais là, on met tout sur le dos d'un pilote, alors qu'en fait, on s'aperçoit que c'est une mascarade, quoi.
Donc toi, tu refais les podiums, tu mets tout Mercedes, et limite, t'enlèves Hamilton sur le
podium. Ouais, clairement, parce qu'on peut mettre, il est interchangeable, on peut mettre n'importe qui, il gagne.
Par rapport à ça, mon Gilbert, sur le Vendée, c'est pareil, hein, les bateaux de alors le Vendée, c'est tous les 4 ans, pour ceux qui connaissent pas, mais les bateaux, en 4 ans, il y a des innovations techniques de dingue. Ces fameux foils, ces fameuses voiles, ces fameux nouveaux cockpits, et ainsi de suite. Il y a plein de choses, et t'en parleras certainement beaucoup mieux que moi. Mais force est de constater que le taux d'abandon est toujours le même, quoi. C'est-à-dire que t'as beau avoir une machine supersonique, ça pète. Et est-ce que l'innovation dans la voile va dans le bon sens par rapport à ce Vendée?
Et encore, dans la voile, c'est maîtrisé, si tu veux. Ils font en sorte que les bateaux, il y a des budgets, hein, parce qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin. Mais là, sur le Vendée Globe, ce qui n'est pas le cas sur la route du Rhum où ils se lâchent vraiment, là, c'est maîtrisé. Et là, oui, effectivement, on voit que les nouveaux bateaux souffrent énormément au niveau des grands foils et il y a de la casse. Vendée Globe, c'est… je crois que c'est un peu plus de la moitié qui termine quand même en temps normal. Donc on verra.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et ça fait depuis la création du Vendée que c'est ça, que c'est 50%. Alors les mecs, les ingénieurs, aussi doués soient-ils, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt penser à renforcer le bateau plutôt qu'à créer une énième amélioration technique qui va te faire gagner 2 nœuds ou 3 nœuds ou je ne sais pas comment ça se dit en marin là. C'est Lionel et Fred après.
Non, mais pour l'instant, on est très loin des 50%. Hein, on est très loin de la fin de la course aussi, hein, mais on est très loin des 50%. Je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 5-6 abandons, là, pas plus. Hein,
Lionel, on a fait 3 semaines de course, on est parti pour 3 mois.
Alors, oui, je te laisse le faire.
C'est vrai.
Ouais. Nous, un peu plus de 3 mois pour nous. Hein, mais bon.
Ouais, Fred.
Bon, après, il y a aussi une donnée qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a des casques qui sont dus à des simplement parce que le bateau heurte un objet flottant non identifié. Ouais. C'est aussi le fait que de plus en plus nos mers sont polluées, sont envahies d'embâcles qui peuvent potentiellement venir poser problème. Alors c'est effectivement il y a de la casse, mais si on veut pas de casse, bah on met que des paquebots et puis il y aura pas de problème, mais ça sera un peu chiant de suivre le Vendée Globe quoi.
C'est le moment l'écologie. T'as raison, mais on sait qu'on va heurter, on sait qu'on a une chance de heurter ces fameux containers-là. Oui, bah, mais... renforce ta coque et non, ouais, bah, allons-y en pack d'eau.
Parce que pourquoi il y a plus de casse avec les ovnis, là, ce qu'on appelle, parce que ça va beaucoup plus vite. Et donc, tu ne peux pas maîtriser, le choc est plus violent, tu ne le vois pas arriver. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite.
Okay,
donc, si tu renforces, tu vas moins vite. Mais bon, tu vas. Parce que c'est aussi une course à la performance, le Vendée Globe. C'est pas que.
D'accord, mais j'avais inventé une fable avec une histoire de lièvre et de tortue. Et ben, faudrait peut-être ralentir un poil pour aller au bout. Okay. Mon Fred, on finit. Ah non, il y a Lionel
ou,
aussi.
Ou alors après, il oui, faut, bon. Faut aussi se poser la question, parce qu'on dit, ouais, l'innovation et tout. Il faut quand même savoir que ça va nettement moins vite qu'à la dernière version. Hein.
Ah,
la dernière ouais. édition. Hein.
Faudra voir l'arrivée. Ouais, faudra voir l'arrivée. Lionel.
C'est la météo aussi, Fred. C'est la météo, hein. Pardon.
Oui, aussi.
Excuse-moi.
Un petit mot pour nos auditeurs, pour parler de Sorel, de VNB Mayenne, qui fait une jolie petite course. Hein, ouais. Voilà, il gagne des petites places. Là, on arrive. Là, on est 11e. Bien, Sorel, bien.
C'est bon, ça. Très, très bon, ça.
C'est bien qu'il fasse un naufrage, quoi, pour faire parler un peu plus de la mer.
Oui, c'est vrai aussi, ça.
C'est intéressant qu'il soit au bord, là, qu'il reste 3 jours sur la coque retournée, un truc comme ça.
Fred.
Ouais, surtout que là, il commence, quand on voit ses dernières vacations, il commence à accuser le coup.
Oui.
Il m'inquiète un peu, ouais.
Oui. Et il n'est pas le seul. Il y en a qui sont en train de se rendre compte que leur petit rêve de marin, bah, c'est pas si simple que ça. Ça tombe très bien ce que tu dis, mon Gilbo, sur le fait qu'il faudrait peut-être attendre qu'il y ait une casse ou qu'il y ait un vrai souci. Est-ce que le Vendée, ça reste une course ou est-ce que c'est pas depuis le début d'ailleurs, hein, depuis sa création, plutôt une aventure humaine, à savoir que finalement cette année, le vainqueur, je ne sais pas trop si on va s'en souvenir, par contre tout le monde va se souvenir de Jean Le Cam qui est parti sauver le mec et qui te fait des vidéos, c'est vrai qu'il est très sympa parce que le mec a une vraie tête de marin et tu sens qu'il a l'air marin, hein, quoi. Fred.
Ouais, justement, le CAM, c'est quand même le contre-exemple parce que on a l'impression qu'ils ont mis la technologie dans le bateau, mais ils auraient pu garder un petit budget pour ses dents ou un truc comme ça, quoi. Parce que
c'est vachement dur.
Deschamps, là, tu fais une Deschamps.
Alors, le mec est fabuleux.
Pour dire.
Le mec est fabuleux, ouais.
Sur la non, c'est une aventure humaine, mais c'est avant tout, on va retenir le vainqueur. Puis t'as deux courses dans la course. T'as ceux qui jouent la gagne, et puis t'as derrière. Effectivement, tout le groupe de fin, là, c'est de l'aventure. C'est pas la régate. Mais je crois que la plupart des marins, ils vont quand même en régate pour aller le plus vite possible. Tout le temps.
Ouais, mais à l'image de ce qui se passe. À l'image de ce qui se passe maintenant sur les courses, à savoir que oui, faire un certain temps sur marathon, ça correspond plus à rien pour personne. Ce qui compte maintenant, c'est faire le 150 km du Morbihan, faire le 300 km du Finistère. Là, c'est un petit peu pareil. J'ai l'impression que les places, on s'en fout un peu. C'est qui va vivre la plus belle aventure, qui va vivre la plus grosse galère, qui va être en plus grosse déprime et qui va en chier le maximum, quoi. Ben, moi, ça me dérange un peu pour le mec qui va finir premier. C'est Lionel. Fred, et après, on va devoir se quitter, chers amis.
Je rebondis sur ta thématique, Ben. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les nouvelles chaussures, si tu vois ce que je veux dire?
En attelé, là?
Oui.
Ouais, bah, c'est pareil.
En demi-fond, oui.
Voilà, bah, c'est pareil.
En fond.
Ouais, mais c'est comme Mercedes, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire aux ingénieurs de Mercedes? Bah, arrêtez d'être des ingénieurs, arrêtez d'être des génies de la mécanique. Vous faites gagner Mercedes trop facilement. Bon, bah, là, c'est pareil. Il y a des mecs qui ont réussi à créer des godasses. Qui te font avancer plus vite. Le mec, on lui a pas mis un moteur, attention. Le mec, on lui a pas rajouté des dopants ou tout ce que vous voulez. On vous a juste créé une godasse extraordinaire. Bon, ben, ouais, c'est l'avancée technologique, tout simplement. Sinon, moi, je continue à aller à l'UTS à cheval. Fred.
Ouais, mais il faut toujours qu'il y ait une limite. Le règlement, il est là pour ça. Le meilleur exemple, on l'a eu en natation quand il y avait les combinaisons, où tu te retrouvais avec des mecs qui avaient zéro technique de nage, des gros bourrins. Et grâce à la combinaison, ils arrivaient à s'en sortir. On a eu un super exemple en France, on a eu Fred Bousquet. Tu le voyais nager un 50 mètres, il n'y avait rien de plus dégueulasse, quoi. Aucune technique, les bras tout droits comme un bourrin. Bah, le mec, dès qu'il y a eu les combats, il était performant parce que lui, ce qu'il bloquait, c'était pas son physique, c'était sa piètre qualité technique. Bon, bah, une fois qu'on est revenu à des choses un peu plus normales, bah, les vrais nageurs sont repassés devant. Et donc, il y a ça aussi, quoi. C'est qu'en athlétisme, le gars qui a les pompes, là, les pompes de cosmonaute, bah, tu vois des mecs qui déboulent. Ceux qui les ont, bah, ils font des différences phénoménales, quoi.
Bon. Mais alors, c'est toujours pareil. On va te dire la même chose avec le dopage. Bon, bah, dans ces cas-là, bah, prenez tous de l'EPO. On va voir qui c'est le plus costaud. Bah, le plus costaud, ce sera toujours le meilleur. Il y a toujours un meilleur. C'est comme ça. Et après, quand ils auront tous les mêmes pompes, bah, il y aura toujours un meilleur. C'est Lionel.
Oui, on va voir ce qu'ils vont dire, mais pour l'instant, ils en sont à dire que la hiérarchie est respectée, donc on accepte pour l'instant les records. Mais comme disait Fred, on va peut-être y revenir un jour, mais il faudra revenir, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que les combinaisons aussi, ils sont revenus sur les records.
Oui, ouais, le 100 mètres féminin est toujours détenu par ce record. Compliqué.
Ouais. Ouais, et pour les pompes, ils ont quand même limité, hein. Ça y est, ils ont fixé la limite, hein, pour la taille des l'épaisseur des semelles.
Ah.
Donc, ouais, c'est fini ça.
T'as le droit au talon compensé, là, comme ils font, mais c'est limité. Il y a une hauteur limite.
Ouais, alors on va finir, hein, messieurs, parce que le temps presse quand même. Je sens que Joël va nous reprendre. Grosjean, j'en reviens sur Grosjean. Alors, pas sur sa sortie de voiture, mais sur le fait que le mec, il était censé reprendre 15 jours après. Et je repense à tous ces rugbymen qui prennent des énormes pètes et tu les entends, ils sont sur leur lit d'hôpital. Putain, vivement que j'y retourne. Tu vois ces boxeurs qui te prennent des KO non-stop. Bon, bah, allez, je vais y retourner. Est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce qu'ils nous mentent? Ou est-ce que ces types-là ont un mental hors norme, un caractère hors norme, j'en sais rien, quelque chose de hors norme qui fait que, bah, malgré ça, malgré être dans les flammes pendant 27 secondes, bah, tu as envie d'y retourner, quoi. Je trouve ça fou. Fred?
Bah, c'est aussi parce que ça correspond à la fin de sa carrière en F1 et il ne voulait pas finir sur cette note-là, ce qui peut se comprendre, ouais, aussi. Et ouais, même pour lui, rester sur une impression où, donc du coup, il ne va pas pouvoir faire le dernier Grand Prix, donc il va rester sur cette note-là. Bon, au moins, se souviendra de lui, Grosjean.
Ouais, voilà. Ouais.
C'est comme un miraculé, un mec. Voilà.
Mais jamais je remonte dedans, ou 15 ans après, Fred. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Enfin, c'est dingue ce qui lui est arrivé. Et tu peux pas dire, t'as un gamin, t'as une femme, tu peux pas dire, putain, je vais y retourner, quoi. Ben non, c'est l'enfer, son truc. Gilbert, Lionel, et promis, Joël, on s'arrête après.
Ouais, bah, pour rebondir, là, t'as un Jean Le Cam, par exemple, qui a failli y rester, hein, clairement. Il est sur son 5e Vendée Globe, quoi. Le mec, il a l'air hyper décontracté. S'il a quand même, il est passé pas loin, hein, le coco.
Ouais. Est-ce que ça s'appelle la passion? J'en sais rien, Lionel.
Oui, exactement. Oui, j'ai rebondi sur Grosjean et sur la passion parce que j'ai connu ça d'assez près. Moi, j'ai deux frangins. Il y en a un frangin qui était passionné de moto. Un jour, il a eu un très gros accident. Tout le monde a eu très, très peur. Et bien, résultat, 6 mois plus tard, il rachetait une moto, il faisait de la moto, il fait toujours de la moto. J'en ai un autre qui faisait du parapente pendant des années. Il a failli se tuer en faisant une chute de 40 mètres en chute libre. Il est resté dans un lit d'hôpital coincé pendant des mois. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait quelques mois plus tard? Il a repris le parapente. C'est la passion.
Ouais, bah, je sais pas, vrai. Moi, j'ai du mal avec tout ça, j'ai du mal parce que il y a quand même des limites humaines qu'il faut savoir respecter. Et messieurs, dames, encore une émission hautement philosophique. Vous en avez de la chance avec moi. oui, je sais, mon Lionel, qu'on n'a pas fait ton jeu, j'en suis.
Et oui, nos auditeurs le réclament, tu le sais bien.
Évidemment qu'ils le réclament, mais regarde en bas, il y a Joël qui nous fait des gestes. Arrêtez les mecs, il y en a marre de votre cirque. On est obligé de rendre l'antenne. On sait que vous êtes très, très malheureux. Chers auditeurs, chères auditrices, mais restez sur l'autoradio. Il y a une excellente programmation cet après-midi, c'est promis. Messieurs, dames, à dimanche dans 15 jours, on ne s'oublie pas parce que Sport Épique est là pendant les fêtes également. Allez, oui, ciao tout le monde. Salut les gars.
Salut. Salut. Oh.